C'est auditeur des programmes du studio Kalangou. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau pour le forum du studio Kalangou. Bakim Botour Al-Mustapha à la présentation. La place du théâtre dans la conservation des valeurs socioculturelles, c'est le thème que nous aborderons ce soir dans notre forum avec les invités. Selon Christiane Bette et Christophe Triant, dans leur livre apparu en 2006 intitulé « Qu'est-ce que le théâtre est d'abord un spectacle, un genre oral, une performance éphémère, la prestation d'un comédien devant des spectateurs qui regardent un travail corporel, un exercice vocal, gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier. Il en résulte de leur œuvre également que le théâtre n'est pas nécessairement écrit dans un document. En effet, le théâtre est donc une œuvre littérale et culturelle qui occupe une place importante dans les activités sociales. De ce fait, qu'est-ce que véritablement le théâtre ? Quelle est la place du théâtre dans la conservation des valeurs socioculturelles ? Comment se caractérise le développement des activités théâtrales ici au Niger et quels sont les obstacles que rencontrent les acteurs dans le cadre des activités théâtrales ici au Niger? Avec nos invités, nous allons tenter de trouver des réponses à ces interrogations. Nous avons comme invité ce soir M. Amadou-Edouard Lampo, qui est auteur et metteur en scène. Bonsoir M. Edouard Lampo.
Bonsoir.
Nous avons également invité Rachid Rahman, acteur, comédien, journaliste culturel. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Kalangou.
Rahman.
Merci de nous avoir invités ici.
Merci. Bonsoir. Et également sur notre plateau ce soir, Oumarou Aboubakari Dibeto, qui est directeur de l'espace Forge Art. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Merci à vous.
Chers invités, nous parlons ce soir de la place du théâtre dans la conservation des valeurs socioculturelles. Et pour commencer, Monsieur Amadou-Edouard Lampo, qui est auteur et metteur en scène, dites-nous comment est-ce qu'on peut définir le théâtre dans le contexte nigérien.
Alors, merci. Alors, définir le théâtre au Niger, avant de reprendre les définitions un peu, on va dire, académiques, moi je dirais... de regarder autour de nous, surtout, regarder les femmes autour du mortier, pour moi c'est du théâtre.
Et regarder les femmes autour du mortier.
Alors, quand les femmes sont en train de piler, vous voyez bien qu'il y a un jeu, il y a des textes, il y a un certain nombre de choses qui se font, pour moi c'est du théâtre. Vous regardez des enfants courir dans la rue, vous avez des petites choses qui se font, c'est du théâtre. Donc le théâtre, en fait, si vous voulez, chez nous, en tout cas de mon point de vue, c'est dans tous les actes de chez nous. Mmh. Y compris maintenant, il y a des formes plus ritualisées, par exemple. Vous avez le Wasankara qu'on connaît à Zinder. Vous avez le Biamou qu'on connaît à Agadez. Il y a beaucoup de ce genre de choses. Le Tobé, pour moi, ça peut être du théâtre. Donc, si vous voulez, au lieu d'aller dans cette définition académique-là, quand on regarde ça, déjà, pour moi, c'est du théâtre. À part le théâtre que nous avons connu de toutes ces stars qui ont égayé notre jeunesse, que ce soit les Yaj Dogo, que ce soit sur les radios, tous ces gens que nous voyons, quoi, que nous avons vus, avant que nous-mêmes nous venions au théâtre. Donc le théâtre, vraiment, pour moi, c'est... D'autres pensent que c'est un endroit clos, avec une scène, avec peut-être la lumière, ça c'est un peu occidentalisé. Moi, je pense que chez nous, c'est plutôt des gens qui se mettent ensemble, qui jouent, qui ont quelque chose à dire ou même qui n'ont rien à dire. Et voilà, c'est vraiment le bon vivre. Ouais, c'est du théâtre pour moi.
Et quel lien peut-il exister entre cette forme de théâtre ou bien, disons, ce type de théâtre et la définition académique que l'on a aujourd'hui qui nous parle de théâtre dans plusieurs œuvres?
Peut-être qu'il faudrait préciser quand même qu'il y a deux types de théâtre. Il y a le théâtre populaire, tel que je viens de peut-être le décrire maintenant, et le théâtre peut-être académique, tel que nous essayons de le faire. C'est-à-dire avec une scène, avec une lumière, on entre peut-être à gauche, on sort à droite, on fait des choses, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des règles. Voilà. Donc peut-être qu'il faut, peut-être dans ce cadre-là, il faut peut-être le préciser. Donc si on le précise comme ça, à mon avis, on peut comprendre un peu.
Merci, monsieur Edouard Lampo. Nous allons revenir avec monsieur Balthazar Rachid Rahman. Dites-nous, comment peut-on aujourd'hui décrire l'évolution des activités du théâtre ici au Niger? Est-ce qu'il y a des révolutions ou bien comment se caractérisent aujourd'hui les activités du théâtre?
Oui, merci. Je remercie une fois encore Kalangou de nous avoir invités autour de cette table-là pour parler de ce que nous aimons de mieux en la culture, notre violon d'Ingres, si nous osons l'appeler ainsi, le théâtre. Pour revenir à ce que M. Lompo venait de décrire tout à l'heure par rapport au théâtre, j'ajouterais que le théâtre, pour le définir ici chez nous au Niger, il faut simplement le plaquer sur la vie quotidienne. Sur la vie quotidienne, il a donné quelques repères tels que ce qui est fait généralement à des périodes bien définies, tels que si vous allez dans la région d'Agadez, le Bianou, dans la région, toutes les régions du Niger pendant le mois de Ramadan, le Tobaï, où chaque catégorie d'ethnie a sa manière de faire le Tobaï. Ici, en zone zarmophone, c'est le Tobaï que nous connaissons. Il y a du côté de d'Ifa, si je ne me trompe, il y a la fantasia, sur le théâtre avec les animaux, le cheval principalement, et le Wasankara pour la région de Zender. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que le théâtre a existé au Niger. Et si j'ose le dire, le théâtre continue à exister, mais dans son embryon encore. Dans son embryon, pourquoi ? Parce que, et que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, mais limitons-nous au théâtre, le théâtre nigérien a fait parler de lui dans les années que les gens ne pouvaient pas s'imaginer. Parce que si le cinéma nigérien a connu et le premier étalon du Yenenga en 72, c'est dû au fait qu'il y avait eu un théâtre en préalable à ce cinéma-là. Ce que d'aucuns n'ont pas essayé de rapprocher. Parce que au Niger, en même temps que le cinéma venait, ça avait trouvé déjà un paquet de comédiens qui étaient déjà, n'est-ce pas, avertis par rapport à la chose théâtrale. Donc, le Niger a connu cette étape-là qui nous a conduit jusque dans la belle époque de l'Amicale, pour ceux qui l'ont connu. Il y avait eu la semaine de la jeunesse pionnière et de fil en aiguille, nous étions venus au régime militaire où il y avait eu l'avènement du festival national de la jeunesse, qui était la période phare du théâtre au Niger. Et nous avions notre théâtre. Voilà. Nous avions notre théâtre. Chaque quartier avait sa troupe autour de laquelle, n'est-ce pas, tous les enfants, filles et garçons du quartier s'exerçaient dans la chose théâtrale. Plus tard maintenant, il y avait eu, comme l'avait dit M. Lompo, la scientifisation de la chose avec ce qu'on a voulu appeler l'aide à la coopération. L'aide, c'est quoi ? C'est-à-dire, il fallait aider le théâtre du Niger à ne plus être que consommé au Niger, mais à être transporté. Et en cette période-là précise, nous sommes déjà dans les années 85-90, une nouvelle règle s'était imposée au théâtre nigérien où on disait que pour pouvoir faire voyager une troupe, il faut restreindre le nombre de comédiens. Voici là où le théâtre nigérien avait repris à être étouffé dans la coquille. Parce que, imaginez, une troupe de théâtre, nous avait-on dit à l'époque, ne doit pas dépasser tout au plus 8 à 10 personnes, y compris metteurs en scène, techniciens et tous ceux qui s'en suivent. Alors que pour le théâtre nigérien, qui était un théâtre très ouvert, un théâtre très en marche, c'était un village. On va revenir. Parce que pour que le théâtre marche au Niger, il faut qu'on revienne à la formule Wasankara dont on a parlé là. Au temps de Kuntché s'asseyait sur le théâtre pour imposer sa volonté de gouvernance. Là, vous êtes d'accord avec moi que nous rejoignons votre thème du jour. Le théâtre au Niger a existé, existe, mais nous avons traversé une période qui a connu un flottement. Et ce flottement est dû à quoi ? C'est dû au simple fait que nous avions voulu quitter ce que nous étions pour singer les autres. Et il y avait eu, chemin faisant, dans cette période-là où le théâtre s'assombrissait, un autre phénomène qui s'était imposé à nous. Le phénomène, c'est Dandelin Soyeya, que vous savez, je sais, qui s'est inspiré du théâtre nigérien de base. Parce que toutes les premières créations du Dandelin Soyeya se sont basées sur les textes du Niger, les chansons du Niger, issues de ces festivals-là et de la jeunesse dont je parlais. Là où je vais finir pour ne pas m'accaparer de la parole, et ce qui fait que aujourd'hui, quand il y a un spectacle de Dandelin Sueya et un spectacle du théâtre nigérien, vous allez constater que le Dandelin Sueya l'emporte et le théâtre est à la traîne. Pourquoi ? Parce que les Nigériens ont et singé les Hindous. Il faut chanter, danser et jouer, comme le font les Hindous. Mais je vais vous poser la question suivante, qui va nous renvoyer à la problématique. Depuis quand est-ce qu'au Niger, vous, en tant que jeune garçon, pour aller faire la cour à votre copine, pour vous faire accepter, vous allez chanter et danser devant elle. Ça sort de nos traditions.
De nos traditions, du contexte nigérien.
Voyez-vous, dire tout simplement que le théâtre nigérien a existé, existe mais en léthargie, et qu'il va falloir une thérapie pour trouver les voies et moyens pour... Et je crois que si je suis le regard du prochain intervenant, je sais qu'ils sont déjà à l'œuvre et nous ne pouvons que les encourager, et leur emboîter.
Merci bien, M. Rachid Rahman, acteur, comédien et journaliste culturel. Nous allons poursuivre nos échanges. Cette fois-ci, revenons à vous, M. Oumarou Aboubakari, dit Beto. Vous êtes directeur de l'espace Forge Art. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des acteurs qui s'intéressent à la question du théâtre ?
Je dirais oui, il y a une forte jeunesse qui s'intéresse au théâtre, et que ça soit dans les écoles ou bien dans certaines filières qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas avant. On voit bien la jeunesse, en tout cas ceux qui sont d'ailleurs même beaucoup moins âgés que nous ou bien de notre génération, qui sont très impliqués et qui en ont fait leur métier. Parce que c'est un métier aussi, c'est vraiment un art qui nourrit son homme, j'en suis convaincu. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence en fait, c'est des choses qui doivent se compléter, qui doivent véritablement, c'est-à-dire ce que le Niger a connu jusqu'ici en termes de théâtre populaire, et les nouvelles formes qui sont nées, ce théâtre de scène là, ce théâtre de scène, parce qu'on sait que aujourd'hui des pointures comme Yazi Dogo, qui sont très très connues au Niger et même en dehors, et quand vous voyez aujourd'hui certains auteurs ou bien certains metteurs en scène ou certains artistes qui sont moins connus parce que tout simplement la cible n'est pas la même. Je prends aujourd'hui, je suis convaincu, c'est pas une question d'âge, que Yas Dogo est plus connu que Edouard Lompo, parce que Edouard Lompo justement a créé une forme de, a mis en scène une forme de théâtre qui joue dans un type de salle, par exemple au CCFN, et nous savons qu'au CCFN c'est des gens, une espèce d'élite si on peut le dire, qui arrivent là, des intellectuels et qui arrivent là, qui ne sont pas forcément la grande frange du pays, du pays. Donc on peut s'attendre à ce que l'autre forme de théâtre qui est très populaire, qui parle souvent aussi notre langue, il ne faut pas se tromper de ça, parce que Balthazar avait pris l'exemple de Dandelin Sueya, par exemple. Ils sont complètement dans une de nos langues, enfin une des grandes langues même, je peux dire, du Niger, de l'Afrique même, en Hausa. Et nous créons très souvent en français, et on sait très bien que ce n'est pas la langue que parle 80% de la population. Donc il y a ce problème-là, ce qui nous ramène à une question fondamentale. Vraiment, nous, en tant qu'artistes, on crée quoi ? Et on crée pour qui ? Véritablement, on crée pour qui ? Quand nous sommes en représentation, souvent c'est gratuit. Les gens payent 50 francs pour voir les répétitions de Dandelin Sueya. Je pense qu'il y a un problème véritable de langue qui se pose là. Qu'est-ce que nous créons et pour qui nous créons cela ? Il est grand temps que les artistes reviennent là-dessus. Il y a récemment, nous avons créé un spectacle en Zarma, porté par les domestiques. Et ce spectacle est à 100% en Zarma. Et ce spectacle est très bien accueilli, mais partout. Parce que même l'enfant comprend parfaitement ce qui est dit. Tout le monde fait du théâtre dans sa langue. Pourquoi nous devons toujours rester
dans la langue française,
dans une autre langue. Vous comprenez. Donc il y a ce problème-là qu'il va falloir résoudre. Il y a aussi cet aspect, pour moi il n'y a pas de conflit, mais nous devons savoir d'où nous venons. D'où nous venons et qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici. Pourquoi à l'époque Sankara a connu cet engouement-là, c'est devenu mais quelque chose de très très fort. Et pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui concilier les deux. Mmh. Moi, je pense que c'est possible.
C'est possible.
Le théâtre, pour moi, c'est une expression vraie, mmh. mais vraiment d'une civilisation. Mmh. C'est vraiment une mise en valeur de nos cultures.
De nos cultures.
On ne peut pas se départir de cela. Mmh. Si nous voulons créer des pièces fortes pour une population, mmh. il est nécessaire de connaître mmh.
la population
de connaître les aspirations, de connaître la culture de cette population-là.
Mmh.
Et les gens sont prêts à payer pour tout. Mmh. On voit bien, ils payeront forcément pour ces spectacles.
J'ai su convaincu. Merci bien, monsieur Beto. Vous êtes directeur du Centre culturel Forge Art, Edouard Lampeau. Revenons à vous. Quels sont les hommes acteurs ou bien quels sont les personnages incontournables en matière de spectacle théâtral?
Oh, je ne sais pas si vous voulez parler de nous autres, de ceux qui sont en train de faire ou bien de la population. Beto tout à l'heure a parlé de notre population, mm-hmm. mais moi je prendrai l'autre population qui est à venir, ce sont les élèves. Mm-hmm. Les élèves et les étudiants qui arrivent. Mm-hmm. Parce que pour parler de l'ensemble Kasséi, mm-hmm. Nous, que j'ai dirigé, que je continue peut-être à diriger, même si les acteurs sont devenus des vieux papas maintenant, c'est une troupe qui est née au lycée Kasséi parce que nous n'avons pas d'œuvre. C'est-à-dire on n'avait pas de livre, on ne savait pas comment faire pour que les enfants parlent français. Donc si nous avons créé la troupe avec les collègues, c'est que nous avons pris les comédiens volontaires, ceux qui voulaient, les enfants, et nous avons... La pièce, nous avons joué une pièce et nous avons plusieurs fois joué la pièce. Mmh. Et ce public-là, moi, je pense que c'est un autre public qu'on doit, là, on doit avoir. Mmh. Par exemple, il y a le festival des lycéens que Forge Art, Arène Théâtre dirige depuis des années. Mmh. Ça fait la 12e édition. On vient de faire la 12e édition. Mmh. C'est des jeunes gens, même, vraiment talentueux, mmh. encadrés par des professionnels. Mmh. Je suis sûr que c'est un futur public pour le théâtre. Mmh. Donc, ce public-là, pour moi... Pour répondre à votre question, c'est voilà un public incontournable. Mm-hmm. C'est ce public-là que nous devons avoir. Parce que déjà, d'autres publics populaires de nos villages, je crois qu'ils sont là, et ce public-là est déjà là. Mm-hmm. Mais le nouveau théâtre, parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il y a un théâtre populaire et un théâtre un peu moderne, on va dire, mm-hmm. il faut que nous le fassions aussi. Mm-hmm. Et pour l'avoir, il nous faut avoir ces gens-là. Mm-hmm. Il nous faut avoir cette nouvelle génération-là. Mm-hmm. Et surtout qu'il y a des scènes. Il y a des scènes. Mm-hmm. Mais franchement, Beto est en train de faire un travail formidable avec Séno, avec Forja. Mm-hmm. Parce que, c'est, comme il dit, ça nourrit son homme. Mm-hmm. Nous, on a eu peur. Nous, notre génération, on a eu peur de ça. C'est-à-dire, on a préféré aller quand même trouver un boulot, mm-hmm. enseigner, faire quelque chose. Mais faire du théâtre à 100%, c'est quelque chose qu'on n'a pas osé faire. Mm-hmm. Mais maintenant, je pense que c'est possible. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des structures, je pense qu'il y a des moyens. Il y a juste une organisation à avoir. Mm-hmm. Et il y aura ce public-là. Mm-hmm. Donc, je pense que le public populaire, il est là, il existe. Mm-hmm. On peut faire du théâtre en langue. Ça s'est fait. Mm-hmm. On peut faire en français. Mm-hmm. On peut, avec les normes internationales, c'est possible.
C'est possible.
C'est possible aussi. Mm-hmm. Donc, je pense que ce public-là, il est là. Il faut aller le chercher.
Et quand on parle du théâtre, on parle souvent des hommes d'ombre. Et qui sont ces hommes d'ombre-là dont on parle?
Les hommes d'ombre, c'est nous autres. Mm-hmm. Parce que moi, j'écris, mais on ne me connaît pas. Il a dit tout à l'heure. Il a raison.
Ouais.
Moi, j'ai toujours fait du théâtre depuis 96. Mm-hmm. 96. Moi, qui me connais personne, mais j'écris, qui lit personne. Enfin, pas grand-chose. Donc, c'est cela aussi. Il y a des hommes d'hommes. Donc, il y a des gens qui le font. Maintenant, ceux qui connaissent le théâtre savent maintenant qu'il y a des scénographes. Parce qu'avant, le metteur en scène faisait tout. C'est lui qui écrit, celui qui apprend aux gens à jouer. Parfois, lui-même, il joue. Il fait la lumière, il fait tout. Alors qu'on a besoin de lumière, votre studio est bien éclairé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a installé. Au théâtre, on a besoin de ça. On a besoin des gens à la fin, avant que les gens ne viennent pour installer, pour désinstaller, pour le costumier. Par exemple, les vraies scènes, pour vous expliquer. Normalement, il y a un auteur, mm-hmm. il y a un metteur, ou parfois c'est l'auteur qui est metteur en scène, c'est-à-dire celui qui écrit la pièce, c'est lui qui fait la mise en scène. Mm-hmm. Parfois c'est quelqu'un qui écrit, mm-hmm. qui donne à un metteur en scène. Mm-hmm. Le metteur en scène, il a un producteur. Il y a même un régisseur qui prend tout le monde, qui organise tout cela. Mm-hmm. Il y a un costumier, mm-hmm. quelqu'un qui doit regarder les gens, qui dit, ah, celui-là va porter tel costume, vous mm-hmm. discutez, il vous fait le costume.
L'habillement.
Maintenant, il y a les scénographes, ceux qui mettent qui vous disent, bon, votre spectacle va ressembler à ça, vous avez besoin d'une scène circulaire, vous avez besoin de tel nombre de choses, voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a plein de monde. Et franchement, c'est des métiers où les gens qui vivent de ça. Mm-hmm. Le Burkina qui est à côté, si vous allez trouver quand même toute une école de scénographes. Mm-hmm. Leur boulot, ce n'est pas monter sur scène. Tout le monde n'a pas vocation à venir juste... Voilà, c'est oui. comme vous.
Oui.
On vous voit à la télé, mais on sait qu'il y a plein de gens derrière qui travaillent.
Effectivement.
Donc, il y a cela.
Merci, mesdames, messieurs. Parlons à présent de la place du théâtre dans la conservation des valeurs socioculturelles, sachant que le Niger est un pays qui a beaucoup d'ethnies, où il y a plusieurs valeurs culturelles, il y a plusieurs cultures. Monsieur Balthazar, oui. Rachid Rahman, dites-nous, quelles sont aujourd'hui, quelle est la place du théâtre, quelle place peut occuper le théâtre dans la conservation des valeurs socioculturelles?
Et nous avons parlé de l'époque du CMS de Kounché, mm-hmm. qui, pour asseoir ses messages, mm-hmm. se basait sur la troupe théâtrale, par exemple, Yaji Dogo, mm-hmm. qui donnait les messages à travers des pièces. Des pièces qui, quand elles sont jouées, de par la thématique qui est développée, mm-hmm. les gens se posaient la question déjà de savoir « le président veut telle chose mm-hmm. ». Si Yaji Dogo joue cette pièce-là, c'est parce qu'il y a quelque chose d'apparenté. Mm-hmm. Avec cette force-là, on ne peut pas douter de la puissance du théâtre dans la vie sociale de mm-hmm. tous les jours. Je prends un exemple. Quand il s'était agi pour le président Kounché de faire consommer le niébé à la population nigérienne, ça n'a pas été difficile du tout. Mm-hmm. Il a suffi tout simplement de faire jouer et de faire chanter. Et vous avez vu aujourd'hui au Niger, on consomme le niébé que partout ailleurs au monde. Alors qu'à l'époque, demander à un Nigérien de manger du niébé, c'est un supplice. Ah mais oui, aujourd'hui si chez vous, vous n'avez pas du niébé dans le menu, mais vos enfants même ne vous respectent pas. Voyez-vous, c'est pour vous dire, c'est un exemple, terre à terre, pour vous dire quel est l'impact du théâtre au sein d'une société. N'allons pas loin. Aujourd'hui, tout le monde s'acharne sur Nour Walam pour les campagnes publicitaires. C'est dû à quoi? Et pourtant, Nour Walam, ce n'est pas un acteur qui a fait les planches, mais c'est dans son jeu. Il joue, on met en place un cadre familial, on met le produit au centre et Tout le monde saisit le message tout de suite. Regardez ce qui se passe avec les novelas. Aujourd'hui, nos femmes, combien de familles ont vu leur marmite de sauce grillée parce que madame a laissé la marmite pour venir suivre novelas. C'est dans leur langue. C'est au Nigeria ou partout ailleurs, les gens essaient de reprendre le sous-titrage en français. Mais regardez comment nos bonnes dames-là en raffolent au point de pénaliser la famille. Ça, c'est des trucs sociaux. Très, très forts. Tout simplement pour vous dire que si nous voulons conserver un changement afin de conserver et nos valeurs artistiques au plan théâtral, revenons à ce que Beto a dit tout à l'heure. Laissons l'aspect scientiste aux scientifiques et laissons l'aspect populaire aux populistes. Qu'est-ce à dire? Les deux genres peuvent se côtoyer. Nous, quand on avait commencé dans le théâtre, j'avais dirigé la troupe Zumunchi, qui n'est pas une des troupes inconnues dans le théâtre au Niger, parce que nous, on jouait le genre épique. C'est un autre genre théâtral. On prenait des histoires du terroir et ou bien les légendes là des généalogistes qu'on transposait. C'est les Diado Sekou, les Djeliba Badje, avec qui paient à leurs âmes, avec qui nous avons beaucoup travaillé. C'est un genre que nous avons abandonné. Ceux qui sont sur les Maliens l'ont récupéré, les Burkinabés, ils en font leur truc. C'est pour vous dire que ce théâtre-là d'expression, et moi j'ai eu, je ne sais pas, c'est une chance ou une malchance de travailler avec quelqu'un qui est fou de théâtre. Quand on vous dit Sidiki Bakaba, si vous le voyez, vous allez croire que c'est un numéro 10 d'une équipe de football. Quand il se déshabille, c'est un paquet de muscles, c'est un paquet athlète. De tout. C'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds. C'est parce que c'est le travail. Il y a le yoga là-dedans, il y a les expressions corporelles, tout est physique. Et l'expression physique, c'est parce que quand au théâtre scientifique, on vous demande d'interpréter un personnage et on vous décrit ce personnage-là. Et vous devez rentrer dans ce personnage-là. et faire comme lui. Si vous n'avez pas un physique préparé, vous ne pouvez pas
le faire.
C'est pour vous dire tout simplement que les deux sont associables. Mais il faut que ça se définisse et que chacun sache vers où aller. Maintenant, le truc central, c'est la langue.
La langue locale.
La langue locale. Nous, nous voulons, même le théâtre scientifique dont nous parlons là, nous pouvons le jouer dans notre langue, quitte à faire des sous-titrages, ou je ne sais pas quoi moi. Quoique le sous-titrage n'est pas possible sur les planches, mais nous, on a mal à ce que le théâtre des planches disparaisse au Niger. C'est ce qui est en train de disparaître, et je dis que, heureusement que Forge Art a été créé, et nous lui souhaitons bon vent pour le travail qu'il est en train de faire.
Merci.
Si on parle de forger, vous êtes d'accord que c'est parce qu'il y a quelque chose
à forger.
À forger là-dedans. Voilà.
Merci, nous avons très bien compris, M. Rahman Rachid. Nous allons revenir à vous, M. Beto. Vous êtes directeur du centre culturel Forge Art, un centre créé et qui est en train de faire un travail remarquable, comme c'est dit sur ce plateau. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement dire que le théâtre joue son rôle ou bien beaucoup reste à faire pour la conservation de nos valeurs culturelles, surtout au vu de cette scientifisation du théâtre au Niger?
Il y a une expression que les Burkinabés disent, que j'aime bien, c'est bon mais c'est pas arrivé. Un chemin a été fait, ne l'oublions jamais cela. Si nous, nous sommes aujourd'hui ici et qu'on a eu moins de mal, c'est parce que justement des aînés ont travaillé. Des textes ont été écrits, des légendes ont été produites, et nous nous sommes focalisés sur cela pour prétendre à une espèce de continuation. Le théâtre connaît beaucoup de difficultés. Il faut vraiment reconnaître cela. Énormément de difficultés. Et aujourd'hui, si on veut véritablement consommer, que le théâtre devient, joue ce rôle-là, parce que pour moi, c'est un des outils fondamentaux. Parce qu'on dit que le théâtre rend la tendresse aux hommes. À travers le théâtre, nos valeurs sociales, nos valeurs culturelles, peuvent vraiment continuer à vivre et pour longtemps. Et ils ont pris beaucoup d'exemples ici dans ce studio-là, autant sur les langues, autant sur certaines façons de s'exprimer, que ce soit la poésie des noms par exemple, que ce soit tout ce que les femmes font autour du mortier par exemple, tout ce que aujourd'hui les gens confondent comme griot ou bien parolier, font dans nos langues. C'est autant de choses, c'est autant de ressources sur lesquelles la jeunesse peut s'appuyer pour revaloriser tout cela. Nous sommes riches que de notre culture. C'est la seule chose vraie que nous ne risquons pas de perdre si on l'entretient bien. Sinon, tout le reste peut partir. Et d'ailleurs, il faut rester dans sa culture pour prétendre même connaître d'autres cultures.
D'autres cultures.
Donc pour moi, il est fondamental aujourd'hui que sur les planches, que ce théâtre de scène-là puise dans notre héritage culturel. Et c'est une façon pour nous de rester vivants. Le théâtre est un art vivant. Et pour rester vivant, il faut rester soi-même. Il faut avoir confiance à notre culture. On n'a rien à envier à un autre peuple. Mais vraiment rien. Et on peut rester... Des textes de rap ont existé bien avant la naissance de ce rap que nous connaissons. Il suffit de se renseigner. Des formes de théâtre ont existé avant cette forme-là.
De théâtre.
Donc, il ne faut pas se départir de tout ça. Au contraire, il faut s'enrichir de tout cela. Nos mariages, par exemple. Nos repas de fête, par exemple. Il y a autant de jeux qui existent, de façons de faire qui existent, qui sont des formes de théâtre. Quand on voit, par exemple, le bori, autour de ça, ou bien la poésie des noms, ou bien cette forme-là, c'est qui parle, comment on appelle ce qui insulte beaucoup là,
Ngambara,
par exemple.
Ouais,
tout ça, c'est
les
autant de richesses, voilà, autant de richesses culturelles et nos modes de vie aussi. C'est-à-dire, nous avons des modes de vie très riches et aujourd'hui, nous avons tendance à délaisser tout ça. Nos maisons ne sont plus pareilles. On essaie coûte que coûte à construire des bétons, des gratte-ciels. Nous n'avons pas toujours été comme ça. Nous avons tendance à mettre de la bitume partout. Nous n'avons pas toujours été comme ça. Et ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas bien. C'est-à-dire, en un mot, il faut véritablement s'interroger sur notre propre identité. C'est-à-dire avoir confiance de là d'où nous venons et aussi risquer d'avoir confiance là où nous allons.
Donc, il y a un chemin à faire entre là où absolument. Nous sommes et il faut avoir confiance aux valeurs culturelles pour voir comment conserver surtout nos valeurs culturelles ici.
Oui, et le théâtre est un outil, je le rappelle, j'ai pas envie de dire l'un des seuls, en tout cas c'est un rare outil qui rend au peuple leur tendresse,
leur identité,
leur humanité aussi, parce que le théâtre est un art humain, c'est une aventure humaine et ça rend aux humains ce qui leur revient naturellement. Ouais. Et pour moi, l'un des arts les plus proches de cela demeure encore le théâtre.
Le théâtre. Merci bien, M. Beto. Vous êtes directeur du Centre culturel Forge Art. Nous allons poursuivre nos échanges et nous allons revenir pour conclure, parce que nous sommes presque au terme de notre temps d'émission. Monsieur Lompo-Edouard, dites-nous, aujourd'hui, avec cette scientifisation, est-ce qu'on peut dire que les acteurs jouent véritablement leur rôle? Et au-delà, quels sont les obstacles dont fait face aujourd'hui la question du théâtre pour la conservation des valeurs culturelles?
Moi, je dirais que un des obstacles, peut-être que vous n'attendez pas à ça, c'est un peu peut-être ce genre d'émission. C'est-à-dire, c'est rare de voir déjà une télé qui parle de théâtre.
C'est déjà
une bonne chose. Mais parler de théâtre de façon telle que nous le faisons, ça va être toujours théorique. Moi, j'aurais voulu avoir une émission chez vous ou ailleurs, ou même dans toutes les télés du Niger, une émission de théâtre où on fera du théâtre. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des choses qui peuvent se voir, c'est des choses qui peuvent se traiter, c'est des choses que les gens ne comprennent pas, qui pourront amener les gens à comprendre. Des journaux auraient pu naître qui parleront que du théâtre ou de l'art. Dans les autres pays, c'est essentiellement comme ça que ça se fait. Ce n'est pas possible que vous ouvrez une radio comme une radio concurrente, certainement RFI, où vous n'entendez pas parler de culture à chaque heure. À chaque heure, on parlera de cinéma, on parlera de culture, on parlera de théâtre. Mais c'est la radio, mais on parle. Alors qu'à la télé, ici, nous avons des télés qui ne parleront pas de théâtre ou qui ne montreront pas du théâtre ou qui n'ont jamais de plage de théâtre. Par exemple, là, on peut tout reprocher à notre télé Sahel, mais nous savons qu'au dimanche, le dimanche, il y a du théâtre. Ça peut être de mauvaise qualité, mais il y a du théâtre. Ça peut être de bonne qualité, mais il y a du théâtre.
Il y a du théâtre.
Et les gens l'attendent parfois pour voir ce théâtre-là. Donc il y a tout cela. Tout à l'heure, Beto disait aussi une chose, moi je vais revenir dessus, c'est un peu toutes nos traditions. Moi j'adore, parce que nous sommes aussi, il faut le dire, le théâtre c'est quelque chose de transgressif. On n'est pas seulement pour ramener notre culture, pour dire que tout est joli, tout est beau. Mais quand c'est vilain, on le dit aussi.
On le dit, on essaie de voir comment
corriger. On le fait, de façon peut-être volontaire. Par exemple, moi j'adore bien les Gambara, par exemple.
Les Gambara,
voilà, dans Gambara, tout ça. Ils disent de belles choses. Moi, j'ai fait des textes, on a travaillé ensemble. Moi, j'ai traduit.
C'est le slam à l'état pur.
Par exemple, ce qui brime les gens de Gambara, c'est un peu notre religion. Aujourd'hui, l'islam est trop prégnant chez nous. Il faut le dire. Les gens sont trop religieux. Et comme les gens sont trop religieux, les Gambara, ce n'est pas seulement. Venir faire du rap à l'état pur, c'est du rap à l'état pur, mais c'est du rap, comment on va dire, c'est de la paillardise, c'est-à-dire c'est des insultes, c'est des choses que les gens ne peuvent pas dire qu'ils disent. Et là, c'est comme la chanson. C'est extraordinaire quand tu les écoutes. C'est vrai que c'est à l'oreille, ça grince. Mais c'est ça qu'ils nous font.
C'est les travers souvent.
Mais on veut pas. Moi, j'adore le taquet aussi. C'est super beau. Les textes sont beaux. Mais personne ne veut. Personne ne veut en parler parce que tout le monde est devenu musulman. Parce que. On pense, non. C'est des critiques. Sinon, ça va disparaître. Il faut les avoir. Il faut les avoir, les mettre dans une boîte, les déposer. Peut-être dans 50 ans, quand l'islam va se. Calmer, les gens vont revenir à ça parce que ça fait partie de notre vie. On peut pas tout balancer, dire que bon, on est tous
musulmans à 100% et puis on oublie tout le reste. Non, ça ne marche pas. Il faut le faire. Parfois même, peut-être, d'autres vont vous dire que chanter, ce n'est pas bien. Bon, ce n'est pas vrai. Dans toutes nos cultures, il y a...
Il y a les chansons.
Mais quelle est la meilleure chanson qu'entendre quelqu'un lire un Coran bien, bien lu? Mais les gens l'écoutent. C'est tout le monde l'écoute dans ses voitures, aussi... mais c'est trop beau quand même. Voilà. Donc j'ai perdu votre question.
Merci bien, monsieur Edouard Lompo. Vous êtes acteur, metteur en scène. Nous allons poursuivre nos échanges. Revenons à vous, monsieur Balthazar Rachid Rahman. Vous êtes journaliste culturel. Dites-nous, quel autre obstacle est-ce qu'on peut rencontrer dans les activités du théâtre en tant qu'acteur? Aujourd'hui, la jeunesse nigérienne particulièrement, quels sont les types d'obstacles qu'elle rencontre dans les activités théâtrales?
Oui, je vais vous surprendre sur cet aspect-là. Monsieur Lompo a effleuré un des aspects. Il s'agit de l'aspect religieux. Mm-hmm. Aujourd'hui, par exemple, moi, en tant que grand garçon, il serait mal vu pour le téléspectateur, ou bien du moins le spectateur ordinaire au spectacle, de me voir torse nu en train d'interpréter un personnage. Il serait mal vu, par exemple, qu'une jeune femme n'est que son pagne attaché au niveau de la taille seulement et apparaître en public les seins nus, la tête nue et tout ça. Tout de suite, il y aura une sorte d'hypocrisie, excusez-moi l'expression, qui va s'installer dans la salle où les gens vont se mettre à crier « Subhanallah, Subhanallah ». Alors que jusqu'à aujourd'hui, dans certains de nos villages, ce comportement-là existe. Des jeunes filles, à l'âge de la puberté, à l'âge mûr, qui ont la jarre sur la tête, sur le chemin du fleuve pour aller chercher de l'eau, torse nu, et qui ne dérange personne au sein de la société. Mais bon Dieu, comme il l'a dit, les gens veulent s'attacher aux valeurs religieuses telles que l'islam. Mais l'islam a une tradition. L'islam n'est pas tombé du ciel islam. Tout de suite, il y a toute une histoire à l'islam. Et aujourd'hui, il y a des gens qui... excusez-moi, je vais friser des sensibilités. Il y a des gens qui diabolisent la musique, par exemple. L'accueil du prophète paix et salut sur lui, de la Mecque à Médine, avait été au rythme d'une musique qui est universelle aujourd'hui.
On dit même que c'est ce qui fait en sorte qu'il y a bien nous...
Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des valeurs qui se basent là-dessus pour leur création musicale. Et aujourd'hui, il y a des prédicateurs en islam, excusez-moi de vous le dire, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas en public, leur source d'inspiration spirituelle, c'est la musique.
C'est la musique.
Pour ceux qui diabolisent la culture, ils sont malades. Ils sont malades. Je le dis, et je le dis à mes risques et périls, je prends ça sur moi. Ils sont malades. Malades pourquoi? Parce qu'on ne peut pas marcher sur la culture. Ce n'est pas possible. Fût-il l'islam? Fût-il le christianisme, fût-il quelque religion que ce soit, il y a une base et c'est cette histoire-là qu'il faut suivre. Rien ne nous interdit aujourd'hui de mettre en exergue nos valeurs de société. Rien. Alors là, rien. Et surtout que, avant d'interpréter quoi que ce soit, on le dit, c'est dans le cadre purement culturel. Il y a une chose, moi je l'ai toujours dit, tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, nous avons Canal+. Excusez-moi, je ne fais pas de la publicité. Il y a des chaînes là-dessus. Il y a des chaînes que moi, je ne suis pas ouléma, je ne suis rien du tout. Il y a des chaînes sur lesquelles je ne m'aventure pas parce que je n'aime pas que ma foi soit touchée. Mais il y a des gens qui sont sur ces chaînes-là, dans le secret de leur chambre. Être hypocrite à ce point-là.
Nous avons compris, monsieur.
Voilà, bref, il faudrait se dire que le tabou est là qui fait partie des obstacles à la bonne marche de la chose artistique. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent que quand une fille est comédienne dans une troupe, je ne peux pas l'épouser. Ma famille ne sera jamais d'accord. Nous avons été confrontés à ça. Et moi, aujourd'hui... J'ai amené ma femme, excusez-moi de parler de moi, parce que de dire que le singe ressemble à l'homme, dites que le singe me ressemble. J'ai amené ma femme, qui est d'une famille où les gens n'aiment même pas, pour éviter ces trucs-là, ils ne mettent même pas de téléviseur chez eux. J'ai amené la fille à jouer au théâtre. pour ceux qui connaissent, ma femme connaisse. Elle a commencé à jouer au théâtre avec moi et je l'ai épousée. Elle est ma femme depuis plus d'une vingtaine d'années, nous avons des gosses. Et aujourd'hui, par elle, les gens consomment la culture chez elle. Et le diable qu'on me prenait pour être là, je ne le suis plus. Il y a des familles dans lesquelles, quand tu arbores une tête comme la tête de Beto Gila, mais tu es diabolique. Tu ne peux même pas regarder une fille de chez eux. Voyez-vous ? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail exhaustif, mais ce sont des obstacles. Et l'obstacle majeur aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, c'est les finances. À l'époque où nous étions, Beto l'a dit, qu'il y a eu des générations. À l'époque où nous étions venus au théâtre, on ne savait pas c'était possible d'en faire un gagne-pain. Mais aujourd'hui, c'est un gagne-pain. Et vous êtes d'accord que pour en faire de quelque chose un gagne-pain, il faut au préalable investir dedans. C'est cet investissement-là qui manque. Les gens disent ministère. Nos ministères ne peuvent pas financer la culture. Les budgets de fonctionnement de ces... Je ne fais pas l'avocat de quelqu'un, mais le financement doit venir de là où ça doit venir et tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Aujourd'hui, quand il y a une belle pièce de théâtre, les gens vous applaudissent, ils sont contents, mais demandez de payer les billets. Ils ne vont pas le faire. Ils vont vous demander où sont les cartes d'invitation. Et l'autre obstacle. Il y a des spectacles que vous concevez. Il venait de le dire, Beto, vous concevez. Vous créez, vous concevez, vous faites tout, la pièce est prête. Vous faites de maison en maison pour distribuer des cartes d'invitation. Les gens vont vous demander, mais et le taxi?
Merci, nous avons compris, monsieur Rachid Rahman, journaliste culturel, acteur, metteur en scène également. Nous sommes à la fin de notre temps d'émission. Monsieur Beto, dites-nous comment aujourd'hui le théâtre peut reprendre sa place dans la société nigérienne. Quel est votre appel à l'endroit des acteurs, de toute la société, pour que le théâtre puisse véritablement jouer son rôle dans la conservation des valeurs culturelles et également dans le développement socio-économique? Parce que vous l'avez dit, le théâtre, c'est un tout pour tout développement.
Bien, moi je vais revenir sur deux choses. Enfin, ils ont abordé la même question, la question de la religion. C'est véritablement un obstacle. Et il va falloir un jour créer ce débat-là. Oui, il va falloir un jour en parler vraiment. Théâtre et religion. En quel sens? Culture et religion, c'est le fond. En quel sens mon métier est un métier haram? Il va falloir nécessairement avoir cette discussion-là. Voyez, dans certains pays, le PIB, la participation de la culture au PIB, au produit intérieur brut du pays, à quel niveau c'est par rapport au Niger? Et parfois, l'incompréhension de notre religion peut engendrer vraiment des problèmes économiques graves, mais aigus, parce que à tout le monde, véritablement. Alors, je ne veux pas revenir sur cette question-là, c'est un obstacle. Mais au-delà de ça, il y a aussi, il a soulevé aussi la question des moyens, la question des finances. On ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut que les créateurs sachent qu'ils doivent créer des choses consommables, des choses auxquelles le public est prêt à payer dans nos espaces. Le Niger est l'un des rares pays qui n'a pas de problème de lieu de diffusion. Si vous voyez bien, rien qu'à Niamey, on a au moins 7 salles où on peut diffuser tous les soirs. Toutes les régions sont dotées d'au moins un espace, sinon deux. Il y a la MJC et il y a la Reine de Lutte, au minimum. Et il y a même des régions qui ont deux MJC. Donc, les espaces de diffusion ne causent pas de problème. Il va falloir véritablement que les artistes, que les créateurs s'adonnent à une création consommable pour leur population, pour prétendre vivre de leur art. C'est fondamental.
D'accord, merci. Nous sommes au terme de notre temps d'émission. Mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève notre émission Forum du studio Kalangou, qui nous a permis d'échanger sur la question de la place du théâtre dans la conservation des valeurs socioculturelles et également le développement socio-économique. Nous avons, en espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations que vous posez quotidiennement, nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui sont diffusés à travers nos 46 radios partenaires et nos 6 télévisions partenaires dont 5 à Niamey et 1 à Zinder. Nous étions dans ce forum en compagnie de monsieur Amadou Edouard Lampo, auteur, metteur en scène, et nous étions accompagnés de Rachid Rahman, journaliste culturel et acteur comédien, et également de monsieur Oumarou Aboubakari Dibeto, directeur de l'espace Forge Art. Présentation de l'émission Bakimba Touré Al-Mustapha, régie technique Seni Isaka et à la régie vidéo Mustapha Ayouba. Merci et à bientôt pour un autre forum sur les thématiques d'actualité.